is the time to heal in America.
Voici Raphaël Jacob.
A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation.
Et ça, c'était hier soir, n'est-ce pas, Raphaël?
Absolument.
Un discours enregistré. Ouais. Décidément, il est très hybride par son absence. Discours enregistré où on ne ressentait pas beaucoup de sincérité, où il s'était truffé de mensonges dès le départ. Mm-hmm. Alors, je te laisse aller.
Ben écoute, je ne sais pas ce que ça t'a fait quand tu as entendu ça, là, entendre Donald Trump après la semaine qu'on vient de vivre, après la semaine, en fait, qu'il vient de nous faire vivre, prétendre qu'on était arrivé à un moment maintenant d'unification et qu'on avait maintenant besoin de guérir et qu'on allait avoir une transition ordonnée et pacifique. Il y avait quelque chose à carrément lever le cœur. Et pour ceux qui sont peut-être assez dupes pour penser qu'il y avait ne serait-ce qu'un iota de sincérité là-dedans, mettons les pendules à l'heure ensemble, Marie-Claire. Marie-Claire,
Claude. Donc, tu me rassures. Tu m'en devais une, c'est bon.
Je t'en devais une, c'est fait. Vendredi, 5h30, c'est fait, c'est réglé. Bon. Donc, c'était tellement sérieux, ça permet de faire baisser le niveau de tension un petit peu.
C'est vrai, c'est vrai.
Écoute, Donald Trump a fait cette sortie-là hier soir pour une seule raison. Et c'est essayer de sauver sa propre peau. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, le court terme, c'est-à-dire essayer d'éviter de se faire destituer d'ici à son départ le 20 janvier. La deuxième raison, c'est se protéger au niveau légal, au niveau criminel, au lendemain du 20 janvier.
Parce qu'il y a déjà des enquêtes, hein, Raphaël, sur son discours d'avant-hier, là.
Parce qu'il y a déjà deux choses. Premièrement, pour ce qui est de partir de façon forcée d'ici au 20 janvier, là, on a appris dans la dernière heure que les démocrates qui sont majoritaires à la Chambre des représentants avaient déjà rédigé la mise en accusation formelle pour lancer un second processus de destitution contre Donald Trump. Donald Trump deviendrait donc probablement dès la semaine prochaine, Marc-Claude, le tout premier président de l'histoire des États-Unis à faire face à deux processus de destitution distincts au cours de son mandat. Et lui, c'est littéralement son mandat au singulier. Il va l'avoir fait en moins de 4 ans. C'est incroyable. Et au lendemain du 20 janvier, peu importe qu'il soit destitué ou non, il y a la question, effectivement, de possibles accusations criminelles. Et justement, tu me relances sur son discours de mercredi. Pour ceux et celles qui ont peut-être encore des doutes là, par rapport à notre utilisation de termes comme sédition, tentative de coup d'État, insurrection, je veux qu'on écoute, ou plutôt qu'on réécoute certains des propos du président lors de ce fameux discours historique, pour toutes les mauvaises raisons, là, mercredi. Écoutons ceci ensemble, Marc-Claude, s'il te plaît.
Mm-hmm. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. We're going to walk down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Bon, écoute, en traduisant, il invite les gens à walk down to the Capitol, marcher vers le Capitole, et il faut être fort, ça prend de la force. Je m'excuse, mais c'est
assez clair. Qu'est-ce que ça vous prend de plus, là? Si ça, c'est pas assez clair, vous n'êtes pas capable de lire entre les lignes et voir là-dedans un appel justement à la turbulence et à l'insurrection. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça prend de plus que ça. Et donc, il y a la question de possible, pour ne pas dire très, très plausible, mise en accusation au niveau légal qui font face au président au lendemain du 20 janvier pour ça. Également, évidemment, pour ce fameux appel un petit peu plus tôt cette semaine au secrétaire d'État de la Géorgie, dans lequel,
samedi dernier,
il l'a incité, pour ne pas dire, il l'a menacé de commettre un acte criminel, c'est-à-dire faire de la fraude électorale. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient parce qu'il y a eu tellement de scandales et de controverses depuis 4 ans. Mais au moment où M. Trump a commencé son mandat, là, il y avait plus d'une vingtaine de femmes qui l'accusaient et qui alléguaient qu'il était coupable d'actes d'inconduite, d'agression, d'harcèlement, des crimes de nature sexuelle. Il y a tout ça aussi qui l'attend au détour, là. Fait que c'est très, très lourd.
Puis il y en a qui ne l'aiment pas bien. Je pense à son avocat, là, son nom m'échappe momentanément.
M. Cohen.
Oui, M. Cohen, qui est en prison.
Exact.
Puis, je veux dire, lui, il y a sûrement des choses à dire aussi, là.
Il y a beaucoup de gens qui l'attendent au détour. Donc, on a un président qui, clairement, essaie de sauver ses fesses. C'est pour ça qu'on a eu cette espèce de vidéo complètement ridicule de Donald Trump hier soir, comme quoi, encore une fois, il fallait tourner la page, c'était l'heure de l'unité, etc. Et dans un extrait qu'on n'a pas le temps de faire jouer, il est allé dire « Tout ce que je voulais depuis le début, c'était de protéger notre démocratie. » Tu sais, je dis encore une fois, c'est à lever le cœur.
Oui, il n'a pas fait grand-chose pour aller dans cette direction-là. Puis dès le départ, dès le début de son discours sur Twitter, quand il dit « J'ai tout de suite... » D'abord, il dénonce ceux qui ont encouragé la veille, tu sais, oui. ceux à qui il faisait foncer, « Allez-y, marcher, puis faut être fort, faut montrer de la force. » Et là, soudainement, il dénonce la violence, dénonce tout ça, et dit que c'est lui qui a appelé très rapidement la garde nationale, alors que c'est faux. C'est pas lui, c'est Mike Pence.
Exact, c'est catégoriquement faux. Et d'ailleurs, Mike Pence, essentiellement, Marie-Claude, là, a presque pris les rênes du pouvoir, là, dans la mesure où il semble plus y avoir personne ou à peu près qui écoute le président présentement. Et on a appris de façon assez tragique dans les premières heures de la journée aujourd'hui qu'un policier qui était au Capitole hier est décédé, a été assassiné, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et la personne qui a émis des condoléances officielles, tu sais c'était qui? C'était Mike Pence. Donald Trump ne l'a jamais fait. Ce qu'il a fait, par contre, comme tu le dis, c'est de condamner, mais encore une fois, de façon complètement ridicule, les mêmes personnes qu'il a encouragées mercredi à commettre les actes qu'ils ont commis.
Exact.
Et ce qu'il a dit, et là aussi, je cite encore le président dans son dernier discours, là, à ceux qui ont violé la loi, vous allez payer. Ce qui est franchement ironique dans la mesure où peut-être que la toute première personne à avoir violé la loi, les lois, c'est lui-même. Mais au-delà de ça, au-delà de la petite personne du président, parlons peut-être, s'il nous reste quelques minutes ensemble, Marc-Claude,
oui, tout à fait.
Des gens justement qui vont payer, des arrestations qui ont commencé. Parce que c'est vraiment rocambolesque là, comme histoire. Là. On a évidemment là, des hurluberlus, on a des gens clairement là-dedans, là, sans jouer au psychiatre, qui souffrent de problèmes de santé mentale. Je le dis parce qu'il y en a qui ont été identifiés, des conspirationnistes de la mouvance QAnon. Bon, on a de ça. Mais ce qu'on a aussi, là, ce sont notamment des gens comme ce PDG de compagnie de marketing de Chicago, 52 ans, aucun antécédent criminel, qui se fait arrêter dans les émeutes, au lendemain de l'émeute, qui prétend que c'était simplement une erreur de jugement, qu'il s'est fait entraîner par les centaines de personnes qui l'entouraient et qu'une fois arrivé au Capitole, ben, il est simplement entré pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Tu sais, c'est incroyable comme histoire.
Alors, tu as le politicien aussi, Derek Evans.
Exact, et c'est là que je m'en allais. C'est que tu n'as pas juste non plus des gens, entre guillemets, ordinaires. Tu as aussi des élus. On a dénombré à date, au moins 6 élus. Là, on parle de membres d'assemblées législatives de différents États. Un petit peu l'équivalent de, si par exemple, ici, on avait des émeutes là, à Ottawa, des membres, par exemple, de l'Assemblée nationale du Québec qui seraient là. Fait que c'est pas des deux de pique, là, OK? On a notamment une sénatrice d'État de la Virginie qui est candidate cette année même là, pour le poste de gouverneur de son État, qui avait invoqué son désir que Donald Trump sorte la loi martiale pour rester à la Maison-Blanche. Elle faisait partie des gens qui étaient là mercredi. Et tu as effectivement cet autre élu de la Virginie-Occidentale, M. Evans, qui lui a été formellement inculpé par le département de la justice. C'est grave. Et là, je te parle simplement des élus qui soit ont été identifiés publiquement ou ont carrément été arrêtés. Ce qu'on a aussi appris aujourd'hui, Marc-Claude, c'est qu'il y avait des mandats de recherche que le FBI avait obtenus et que le FBI était déjà en train d'exercer auprès de membres, d'autres membres de l'Assemblée législative du Tennessee. Donc, l'équivalent du Parlement, de l'Assemblée nationale, si on veut, de l'État du Tennessee. Donc, ils sont déjà en train, les policiers fédéraux sont déjà en train de fouiller les bureaux de ces élus-là, les domiciles privés de ces élus-là. C'est quelque chose là, qui se passe. Là. C'est incroyable comme histoire.
Et comment l'Amérique va guérir de ça?
Exact.
Et comment les deux prochaines semaines, ben 12 jours, là, je pense qu'il reste, le 12 de dos avant que ça finisse. Puis là aussi, hey, moi, là, ça m'a secoué tantôt quand Pelosi a demandé à l'armée qu'on lui retire
les codes nucléaires.
Les codes nucléaires, écoute.
Absolument.
C'est rendu loin de ça. Puis moi, je dois commencer à être paranoïaque parce que je me suis même dit, fais-y pas penser à ça, là, tu sais.
Mais c'est-tu quoi? C'est-tu quoi? J'ai eu honnêtement la même réaction que toi, dans la mesure, et je sais qu'on n'est pas les seuls à s'être dit ceci, c'est sans doute très bon qu'ils aient ces discussions-là présentement. C'est peut-être moins bon qu'ils en parlent sur la place publique du fait qu'ils ont ces discussions-là.
Oui.
Donc, écoute, qu'est-ce que les 12 prochains jours nous réservent? Je l'ignore. Ce que je peux te dire, par contre, c'est ceci. Et ça, ça sera un point dont on pourra peut-être se reparler là, à date ultérieure, mais la question de la violence politique là, aux États-Unis, là, c'est quelque chose qui devrait, disons, nous troubler profondément. Pas simplement parce qu'on l'observe, mais parce qu'on mesure, dans des études qui avaient été faites avant même l'élection, une plus grande tolérance des Américains. Et là, on cessera sur ceci, mais c'était déjà le quart des électeurs de Donald Trump et à peu près le cinquième des électeurs anti-Trump qui jugeaient, je le répète, ça c'était avant l'élection, que le recours à la violence pouvait être justifié si leur côté perdait l'élection. Et si on leur demandait, si le côté adverse, par exemple, fait preuve de violence en premier, bien là, le taux d'appui au recours à la violence, il doublait.
Ouais.
C'est excessivement troublant, Marc-Claude.
C'est très, très troublant. Écoute, 20 secondes pour t'entendre sur le fait, on s'en doutait bien qu'il ne sera pas à la sermentation de son successeur. Écoute, oui. Ça aussi, c'est... En fait,
oui.
Biden a l'air bien content de ça, finalement. Là. Mais,
ouais, mais
est-ce que Mike Pence y sera? En tout cas, je te laisse conclure.
Oui, mais premièrement, pour répondre factuellement à ta question, oui, simplement, Mike Pence va y être.
Ben, ça, c'est bien.
Et que Biden se réjouisse ou non de l'absence de Trump, il y a quelque chose qui est carrément digne d'un viol, encore une fois. C'est un viol des normes, des valeurs américaines.
En 20 secondes,
et du protocole et du fondement même des États-Unis. J'ai fait l'émission de notre ami Dan Bigras ce matin et je lui ai conté une anecdote que je vais te conter très rapidement. Je vais te laisser là-dessus pour la fin de semaine. La toute première transition du pouvoir présidentiel aux États-Unis, c'était celle entre George Washington, évidemment le premier président, et John Adams. Et Washington était là, et il était là après avoir décidé lui-même, unilatéralement, qu'il n'allait pas se représenter pour un troisième mandat auquel il était éligible, parce qu'il n'y avait pas encore cet amendement de la Constitution à l'époque, comme quoi on était limité à deux, c'est ça. Et donc, il avait décidé de partir volontairement, et au moment de la sermentation, après la sermentation du nouveau président Adams, Washington avait choisi non pas de sortir en premier ou de sortir en dernier et donc d'être vu comme étant très spécial ou important ou mais en plein milieu de la foule pour envoyer le signal comme quoi tous les présidents devaient être d'abord et avant tout des citoyens. C'est ça qui est censé être l'Amérique et Donald Trump représente un viol le plus abject de ses valeurs, de ses principes fondateurs-là.
C'est sur ces paroles qu'on se laisse, mon cher Raphaël. Je te souhaite un beau week-end. Ça a été un plaisir encore une fois de travailler avec toi et on se retrouvera à l'été.
Même chose, Marc-Claude.
Bye-bye. Merci beaucoup. Bye-bye. Il est 17h51. Petite pause et Jérémy Réville sera avec nous tout de suite après.